Bonjour Patrick. Vous êtes quatre aujourd'hui, ravi de vous recevoir. Patrick Bertrand, bonjour.
Bonjour.
Directeur général opération Dolnès, le family office de Jean-Michel Aulas. Stéphane Carcillo, bonjour.
Bonjour.
Responsable de la division revenu travail de l'OCDE. Et puis vous avez succédé à Gilles Berset à la tête du groupe d'experts sur le SMIC. On parlera du SMIC à 1 600 € net. Et vous êtes également membre du cercle des économistes, comme Christian Saint-Etienne. Bonjour Christian.
Bonjour.
Professeur au CNAM, et vous avez publié Le conflit sino-américain pour la domination mondiale, l'Europe et la France, dans le nouvel ordre mondial aux collections Alpha. Laurent Vronsky, bonjour.
Bonjour à tous.
Directeur général d'Hervor, secrétaire général de Croissance Plus, membre du comité stratégique des écoles Espérance Banlieue. Voilà ce qui ressort de la petite consultation des membres de l'UDEP, vous savez qui est l'un des trois syndicats patronaux. Ils regrettent qu'il n'y ait plus de perspective sur un texte concernant la simplification. Ils sont dubitatifs sur cette fameuse promesse d'exonération de cotisations pendant 5 ans sur les hausses de salaire, car c'est sur les hausses de salaire qui concernent tous les salariés, les hausses de salaire générales. Et puis ils s'inquiètent sur la capacité à faire appel à des travailleurs étrangers, qu'ils redoutent une pénurie de main-d'œuvre. Bon. Comment vous vivez la période, monsieur Vronsky ?
Oh bah écoutez, tout va bien. Beaucoup de sérénité.
Est-ce que tout va bien, justement ? Est-ce que tout va bien ?
Alors, de toute façon, quelque part, le pessimisme est d'humeur et l'optimisme de volonté. Donc, en tant qu'entrepreneur, nous, on n'a pas le choix. Et en plus, comme on guide nos équipes derrière nous et qu'il y a beaucoup d'incertitudes aujourd'hui et que les équipes se tournent vers nous, je veux dire qu'on doit essayer de trouver le positif dans le pessimisme. Alors, je ne suis pas en train de vous dire tout va bien, madame la marquise, mais c'est vraiment le regard que vous portez. Ce qui est sûr, c'est que l'économie et les agents économiques ont horreur de l'incertitude. Le risque se mesure, l'incertitude ne se mesure pas. Et là, on est en pleine incertitude. Donc le résultat a été immédiat. Vous avez énormément de projets qui ont été mis sur pause. Et ça, c'est du concret. Parce que les gens ne savent pas ce qui va se passer. Donc, je suis vraiment, si vous voulez, moi je suis ravi qu'une grosse partie de nos affaires se tiennent en dehors de la France. Parce que les gens qui sont uniquement sur le marché français, à mon avis, ça ne va pas être facile pour eux. Et nous avons des fournisseurs pour qui c'est le cas, et qui aujourd'hui connaissent des difficultés parce qu'il y a des projets qui ont été mis sur pause. Ça n'a pas été supprimé, ça a été déplacé. Mais jusqu'à quand, on n'en sait rien.
C'est ce qui s'est produit aussi, vous savez, sur les acquéreurs immobiliers. Les téléphones ont cessé de sonner le 10 juin dans les agences immobilières. Alors les acquéreurs étrangers ont totalement disparu du paysage. Même question pour Patrick Bertrand.
Très proche de Laurent en termes de réponse. Un dirigeant d'entreprise ou une dirigeante d'entreprise a horreur de l'instabilité.
Oui, ça
pour une raison qui est évidente, c'est qu'on investit tous les jours dans des nouveaux projets et donc on ne sait pas, entre guillemets, à quelle sauce on va être mangé, ou c'est un peu péjoratif, mais quel va être le cadre réglementaire, juridique et fiscal. Donc la réaction, c'est d'être positif, d'aller de l'avant, mais c'est de mettre en pause les gros projets d'investissement. Et il y a encore quelques semaines, il y avait un show qui s'appelle Choose France, et il y a eu plein d'articles qui mettaient en évidence le fait que la France avait retrouvé une attractivité absolument formidable. Bah, très clairement, tout le monde se met en pause et lève les crayons. Donc c'est ça le sujet. Il faut vite sortir de cette situation pour qu'on y voit clair et qu'on puisse se projeter. Il y a un autre point quand même que je voudrais rajouter, je pense que Laurent le ressent, mais rappelez-vous, pendant le Covid, un des points de stabilité du pays, ça a été les entreprises. Et l'image de l'entreprise est excellente. Et donc, nous avons aussi un rôle à jouer en tant que dirigeants, etc., pour stabiliser justement dans ce maelstrom, pour stabiliser nos citoyens, nos concitoyens, et faire en sorte que on soit dans une dynamique à peu près positive. Et donc, je pense qu'on va de nouveau voir que c'est bien l'entreprise qui est au cœur, pas le seul, mais qui est au cœur du bon fonctionnement d'une société et d'un pays.
Je suis pas sûr qu'il y ait un Choose France 2025. Hein. C'est pas gagné, ça.
Nous verrons. Et avec qui ?
Votre réaction, Christian, avant de partir sur le SMIC, notamment, votre réaction, Christian Saint-Etienne, là, maintenant, presque quelques jours du second tour, et puis après l'annonce de cette fameuse, presque un mois après l'annonce de la dissolution.
Je suis moins inquiet que la semaine dernière, paradoxalement.
Bah vous êtes comme les marchés lundi, quand vous avez fait un ouf de soulagement à 20h.
Non, c'est pas pour cette...
Mettez le micro plus près, Christian.
Oui, c'est pas pour cette raison-là. Bon, on va certainement, probablement, vers un RN qui va peser, mais à 220-230 députés. Donc, la question centrale, maintenant, c'est les équilibres de ce qui n'est pas RN. Donc, 580 moins 230, il reste 350 députés. il faut une majorité de 290. Est-ce que LFI, la question centrale en fait de dimanche, c'est est-ce que LFI est dans la configuration du gouvernement qui se mettrait possiblement en place la semaine prochaine. Ça, c'est une question centrale. Pourquoi ? Parce que la France a déjà le record des prélèvements obligatoires en Europe et le record de la dépense publique en Europe. Si LFI passe, c'est un choc sur la
Personne n'y croit.
Les finances publiques. Non, mais si
personne
si...
ne croit à LFI
non, non,
à Matignon.
Non, mais je parle pas de Matignon. Je parle d'être en capacité d'influencer de manière significative l'orientation des mesures qui seront prises par un gouvernement entre guillemets dont on parle dit d'union nationale.
Oui, d'accord. Oui.
Donc ça c'est un point important. Ce que je retiens surtout de cette campagne, on fera le bilan la semaine prochaine voire au-delà parce qu'on n'est pas au bout de nos surprises avec un président qui prend des décisions à l'emporte-pièce. Il pourrait démissionner lundi aussi. On n'est pas à l'abri de tout ce qui est concevable. Mais ce ne serait pas forcément le pire.
Je ne sais pas, je ne sais plus.
Ce n'est pas forcément l'extrême droite qui passe. Non. Parce que les Français auront purgé leur colère aux législatives et ils pourraient faire un choix très différent la prochaine fois. Mais je termine rapidement sur le fait, et puis on y reviendra, sur le fait que pendant toute cette campagne, on n'a pas abordé le seul sujet clé en France, c'est-à-dire comment on accentue une politique de l'offre qui permette d'augmenter le taux d'emploi, car seul l'augmentation du taux d'emploi permettra de réduire la dépense sociale et possiblement de réduire le déficit public. Donc, c'est ce qui m'inquiète le plus, c'est la qualité
de la réflexion ou
et surtout aucun des grands acteurs de la politique française actuellement ne met le doigt sur les sujets fondamentaux.
Hier je vous citais Jean-Marc Vittori justement et cette chronique dans les Échos qui rappelle juste d'où vient le pouvoir d'achat et le revenu. Gilles Berset, aujourd'hui dans les Échos, rappelle qu'un pays avec un solde commercial négatif, c'est un pays dont l'offre est inférieure à la demande. Pourtant, partout, les programmes misent sur la politique de la demande. Aucun programme n'évoque la question de la productivité. Et d'ailleurs, la plupart proposent de travailler moins. Voilà, c'est exactement la résonance de ce que vous venez de dire. Stéphane Carcillo, vous êtes à la tête du groupe d'experts sur le SMIC. Quand vous entendez qu'on propose un SMIC augmenté de 14% à 1600 euros net, comment vous lisez une telle proposition ?
Alors, le SMIC, en soi, c'est pas forcément l'ennemi de l'emploi. Hein. Ça dépend vraiment du niveau du SMIC par rapport à la productivité. Et donc, c'est la raison pour laquelle...
C'est déjà complexe, ce que vous avez dit, par rapport au débat d'opinion.
Bien sûr, bien sûr.
Ça dépend du niveau du SMIC par rapport à la productivité.
Bien sûr. En français, ça veut dire qu'il faut que ça rapporte plus que ce que ça coûte.
Exactement. Voilà, merci.
Ah bon ?
Exactement.
Ah bon ?
Et donc, c'est vrai que dans des pays, par exemple, où le salaire minimum était très faible par rapport à la productivité des autres salaires, par exemple à l'Espagne, il y a eu des hausses importantes.
Énormes, oui, absolument.
Énormes, qui ont eu des effets sur l'emploi, mais relativement négatifs, mais relativement mesurés. L'Allemagne a fait un SMIC, mais elle l'a fait assez calé sur ce que faisaient déjà les branches. Et donc, c'est relativement en ligne avec la productivité. La France, depuis 20 ans, a un SMIC qui est très élevé par rapport aux autres salaires. On est environ à 60% du salaire médian, voire plus maintenant. On est autour de 62, 63, voire même plus aujourd'hui.
Je fais une incise en moyenne dans les stats OCDE, c'est 50%, non ?
Voilà, en moyenne, c'est 50%.
On est du déjà, salaire médian, oui.
Voilà, on est déjà très élevé par rapport aux autres salaires, ce qui signifie probablement qu'on est très élevé par rapport à la productivité des emplois concernés. Donc, toute hausse du SMIC doit être progressive, bien mesurée, et il faut éviter les à-coups vraiment très importants, parce que là, du coup, il y a un risque important, on le sait quand on a évalué l'effet de la hausse du coût du travail sur l'emploi en France, au niveau du SMIC, il reste très sensible, très très sensible. Et donc c'est la raison pour laquelle...
Le coût du travail au niveau du SMIC influe énormément sur il y a du boulot ou il n'y a pas de boulot.
Voilà, exactement. Et donc quand on fait un saut de 200 euros, ce qui fait une hausse de 14% sur le coût du travail, c'est un choc très important en termes réels. C'est très différent des hausses qui ont eu lieu récemment qui ne faisaient que rattraper l'inflation, donc c'est des chocs nominaux. nominaux. Il n'y avait pas de hausse du salaire minimum réel, donc il n'a pas bougé. En revanche, si on fait un saut d'un seul coup de 200 euros, là, c'est un choc réel pour les entreprises. Il n'est pas évident qu'elles seront capables et en mesure de passer ce choc sur les prix. Donc, ce sera un vrai...
Confirme.
Voilà. Et donc, ce sera un vrai choc parce que, tout simplement, dans beaucoup d'emplois, elles sont très contraintes, elles ont de la concurrence. Et donc, ce sera un choc réel. Et là, les risques pour l'emploi sont plus importants. Ce qu'il faut dire aussi, et ce que les gens n'ont pas en tête, c'est que non seulement il y a un risque sur l'emploi qui peut concerner plusieurs centaines de milliers d'emplois, mais ça coûte très cher. C'est-à-dire que ce qui se passe, c'est que les allègements de cotisations qui aujourd'hui concernent non seulement les emplois au SMIC, mais aussi beaucoup d'emplois, puisque c'est lissé jusqu'à 3,5 fois le SMIC, sont indexés sur le niveau du SMIC. Quand vous montez le niveau du SMIC, vous augmentez l'enveloppe des allègements. Et donc la facture va se monter à probablement 20 milliards d'euros pour cette mesure.
C'est sur un an, 20 milliards d'euros
Pour l'État.
20 milliards d'euros de cotisations en moins pour le financement de la protection sociale.
Et donc compensé par l'État, sur le budget de l'État. Puisque c'est
l'État
compensé.
Qui va faire un chèque de 20 milliards.
Oui, j'ai compris.
Et unique, il y a les allègements, mais il y a aussi les autres prestations sociales qui sont calées sur le SMIC. La prime d'activité, par exemple. Les allocations logement. Et donc l'enveloppe va... Ça coûte très très cher. À titre de comparaison, il y a d'autres manières d'améliorer le pouvoir d'achat des salariés au SMIC de manière importante, sans peser sur l'emploi et qui coûte moins cher. Je pense à la prime d'activité.
Ben oui.
La prime d'activité aujourd'hui au niveau du SMIC, c'est 200 euros. Si vous la doublez
pour une personne seule,
hein. Et que vous faites 200 euros de plus, l'équivalent de la hausse du SMIC, d'accord, et vous doublez l'enveloppe de la prime d'activité, le coût pour les finances publiques, c'est 10 milliards, la moitié. Et là, vous impactez vraiment la pauvreté, parce que c'est beaucoup mieux ciblé. La hausse du SMIC, elle impactera très peu la pauvreté.
Il n'y a pas d'effet secondaire. En
très, très peu la pauvreté.
Non, mais j'entends ce que vous dites. Juste un point avant de vous faire...
Il faut être extrêmement vigilant.
Non, ce que dit Stéphane.
Il faut être extrêmement vigilant.
J'ai parfaitement compris ce que
parce que personne n'en parle, en plus.
Ben, on est là pour ça. Mais en plus, il faut rappeler une chose. Il faut rappeler une chose, c'est que j'ai regardé par rapport à ce qui avait été décidé en 1980, où il y avait eu un fort coup de pouce sur le SMIC. Il y avait à l'époque beaucoup d'inflation. Si on défalque de l'inflation, le coup de pouce qui serait proposé là serait deux fois plus supérieur à celui de 1980. Oui. Non, mais j'ai bien compris que la prime. Alors certains vous diront, oui, mais la prime d'activité, c'est au moins le SMIC, c'est du dur, c'est du salaire, c'est du sûr. Voilà. La prime d'activité, on peut sur un choix politique décider qu'elle va dans un sens, qu'elle va dans un autre, et qu'en cas de coup dur, eh bien finalement elle est revue à la baisse, non, mais, une forme de doute.
Non mais c'est du dur pour ceux qui resteront en emploi, les autres
d'accord.
Ils seront virés, donc bon, ça ne sera pas du dur.
Réaction, Patrick Bertrand.
Oui, très, très rapide.
Allez, droit au but sur ce que veut dire Stéphane.
Il y a aussi un autre moyen, c'est les accords qui ont été passés, mais je crois que les décrets viennent de sortir 6 mois après. C'est ce qu'on appelle le partage de la valeur, l'accord qui a été passé pour le partage de la valeur, c'est la mise en place d'accords d'intérêt à l'intérieur de toutes les entreprises, quelle que soit leur taille. Donc ça aussi, c'est un moyen d'intéresser en monnaie trébuchante si l'entreprise fonctionne. Et juste pour rebondir sur ce que vous évoquez, moi je pense quand même que ça générera une augmentation des prix. Et augmentation des prix, ça veut dire d'une certaine façon que le gain de pouvoir d'achat par rapport à cette augmentation du SMIC sera réduite. Et puis, on le sait, relance de la consommation, compte tenu de notre déficit extérieur, c'est relance de la consommation de produits importés. Donc on a un peu un carré magique à l'envers, quoi, négatif, un cercle vicieux.
C'est le problème de ces mesures qui, dès qu'on commence à les décortiquer dans les moindres détails, révèlent évidemment des failles souvent assez bien. Oui, c'est systémique. C'est systémique, absolument. Ce qu'on vient de décrire, Laurent Vonski.
Ah ben, je vais compléter les.
Moi, j'ai entendu Guillaume Richard de WeCare vous dire que lui, qui embauche énormément de gens aussi dans les services à la personne. Pour lui, c'est un quasi suicide.
C'est un tsunami. Ouais.
C'est un tsunami, voilà.
Absolument. Nous on n'est pas concernés par le sujet parce que comme on est sur des métiers très spécifiques, il y a personne qui est au SMIC.
Je voudrais
justement compléter vos propos par un mythe qui est que c'est pas grave, on va augmenter les coûts, mais on va tout reporter sur les prix de vente. Alors ça, on a eu un exercice réel. Il n'y a pas plus tard qu'il y a un an ou deux, avec les pénuries de matières premières et l'inflation à deux chiffres, voire à trois chiffres sur certains produits, sur l'énergie. La plupart des entreprises ont été incapables de répercuter ces hausses. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu une contraction des marges, voire des entreprises qui ont fini au tapis. Donc, c'est ça, je dirais, la réalité. On ne peut pas augmenter les coûts d'un côté et les répercuter au niveau des prix de l'autre. Et comme tu l'as parfaitement expliqué. Je veux dire qu'il y a aussi un deuxième mythe qui est de dire, bah, si on donne plus de pouvoir d'achat, tout le monde va se trouver mieux, puisqu'en clair, les gens vont se précipiter dans les magasins et les entreprises. Alors déjà, je doute fort que les gens se précipitent pour acheter nos compresseurs, ça c'est une chose, mais je pense qu'ils vont aussi beaucoup se précipiter pour aller acheter des produits qui ne sont pas fabriqués par les entreprises françaises.
Et vous voyez, en dépit de toutes les explications qu'on peut apporter, Christian Saint-Étienne, je sais que dire « je vous promets un prix français de l'électricité au moment où justement le prix européen est inférieur, je vous mets le SMIC à 1600 », je suis persuadé qu'intuitivement, la majorité considère que c'est la bonne idée. Même si on lui explique ce qu'on vient de l'expliquer dans le détail, je pense que voilà.
Il y a une solution qui est proposée par Stéphane.
Oui, qui est jouée sur la prime d'activité.
À laquelle j'adhère évidemment, je pensais à la même chose. Même 100 euros sur la prime d'activité, ça c'est du bon cash, parce que ça n'a pas de conséquences négatives ni pour les entreprises, ni pour la hausse des prix. Je reviens sur un point, parce qu'il se trouve que j'ai... vous dites LFI, il y a un programme du nouveau Front Populaire, et le nouveau Front Populaire sera un élément clé de la majorité d'Union Nationale. J'ai regardé ce programme. Il propose un choc sur la demande de 6 points. Je suis allé regarder le choc de 1981. En 1981, le choc avec l'arrivée du programme de François Mitterrand a été de 1,5 point de PIB. C'est 4 fois le choc de 1981. Qu'est-ce qui s'est passé après 1981? 3 dévaluations dans les 18 mois qui ont suivi. Sauf qu'aujourd'hui, on ne peut plus dévaluer. Mmh. Premier point. Deuxième point, en 1981, la France était encore un grand pays industriel. La production industrielle, c'était encore 25 points de PIB. Aujourd'hui, c'est 10. Donc, on est désindustrialisé, on ne peut plus dévaluer et on a un énorme déficit extérieur. Si vous faites un choc de demande sur un pays désindustrialisé qui, par ailleurs, a un énorme déficit extérieur, c'est un bain de sang. Donc, la question centrale, c'est que vous avez le RN qui n'a jamais été très clair sur ce qu'il ferait effectivement au pouvoir, et vous avez le nouveau Front Populaire qui, lui, est extrêmement clair, avec des mesures comme celles qu'on propose. Donc, la question centrale, bien sûr, il y aura un retour au réel, mais le retour au réel, tel qu'il est intervenu en Grèce en 2010, il a été d'une violence phénoménale. Donc, la question... pour moi, c'est à un moment donné, mais c'est ce que vous disiez en introduction, Nicolas, c'est effectivement les quelques articles dans les Échos, mais c'est ce que prône le cercle depuis longtemps, c'est le cercle des économistes, c'est comment on relance l'offre productive. Parce que ce que nos camarades disaient tout à l'heure, l'économie française, elle est à 80% une économie de services. Si tu ne peux pas compenser par la productivité dans les services. Donc si tu augmentes les coûts de 14%, les prix augmentent de 14%. Mmh. Or, en face, les consommateurs ne pourront pas payer. Donc, c'est une folie totale. Donc, c'est très important ce qu'on dit ce matin. C'est l'augmentation du SMIC est un coup de poignard dans l'économie française. Il existe une solution pour répondre au problème de pouvoir d'achat, c'est de mettre, par exemple, 100 euros au 1er septembre sur la prime d'activité. Il faut que ça se répète. Ouais. Il faut que ceux qui pourraient arriver au pouvoir en prennent conscience.
Je partage, et on constate quand même, on l'a vu avec ce qu'on a improprement parlé, la prime Macron, qui est la prime de partage de la valeur.
Oui, mais c'est
on
pas
voit...
pareil. Oui.
Non, on est bien d'accord. Parce que je voulais revenir sur un point essentiel. On voit que quand l'augmentation de salaire ne se traduit pas par des surcharges et un coût pour l'entreprise considérable, elle devient effective, parce qu'elle a bien marché, cette prime de partage de la valeur. Et donc, très clairement, laissez-nous faire les dirigeants d'entreprise, on sort à payer correctement nos collaborateurs et collaboratrices, mais il ne faut pas que quand le collaborateur et collaboratrice reçoit 100, ça coûte 240. Voilà, donc là, il y a un point clé quand même, qui est, alors je ne me place pas au regard du sujet des dépenses publiques et du déficit, parce qu'effectivement, ça fait moins de rentrées de cotisations, mais il y a une réalité, c'est que là, on peut générer du pouvoir d'achat. Donc, prime de partage de la valeur, le partage de la valeur avec l'intéressement ou des augmentations jusqu'à un certain montant qui seraient exonérées de charges sociales, bah, croyez-moi, on en injecte du pouvoir d'achat sans alors, pour autant qu'on ait créé un effet systémique.
Un mot pour voilà. Laurent, et on marque une pause, on a 40 secondes.
Je vais compléter tes propos, parce que d'aucuns diraient oui, mais attendez, là, on peut pas croire ce que vous dites, vous êtes un patron. Je vais juste rappeler que dans beaucoup de secteurs, notamment dans des secteurs à forte valeur ajoutée, il y a pénurie de compétences et pénurie de main-d'œuvre.
Exactement.
Donc, le bon Dieu sera le juge des âmes pour savoir si on est sincère dans nos intentions, mais on est obligé de le faire, sinon nos talents partent.
Exactement.
On marque une pause. Stéphane Carcio, mais vraiment en amont, est-ce que vous avez communiqué sur ce que vous venez de nous expliquer depuis les annonces des programmes et tout ça?
Pas vraiment, non.
Bah, c'était l'occasion.
Voilà.
Il était temps de venir.
Canal historique.
Voilà,
Radio Londres de l'économie.
J'aimerais bien qu'on revienne sur les augmentations de salaire avec l'exonération, parce que c'est pas forcément plus vertueux.
Non, mais j'y viens.
On regarde la dette publique,
C'est le sujet suivant. C'est le teasing. On évoquera la réforme de l'assurance chômage aussi.
Quel est le plus...
Allez, hop, on y va, c'est parti. À tout de suite.
Nicolas Dose et les experts sur BFM Business.
Just like backyard barbecues or a day at the pool, the Three Rivers Festival has always been a part of our summer fun. And the festival returns July 12th to the 20th. It kicks off with the annual Three Rivers Festival Parade. Browse art in the park with local artisans. Bring the family to Children's Fest. Stroll through Junk Food Alley. And don't forget about the festival concerts at the Hoosier Lottery stage with live music from nationally renowned acts. You can buy your concert tickets or check out a schedule of events at threeriversfestival.org. Don't miss the best summer experience in Fort Wayne, the Three Rivers Festival.